thématique.
J'accuse, j'accuse.
Alors là, c'était vieux pour la Grèce, et pour le grec de l'époque.
J'accuse.
Nana s'était absorbée dans son ravissement d'elle-même. Elle pliait le cou, regardant avec attention dans la glace un petit signe brun qu'elle avait au-dessus de la hanche droite.
J'accuse.
Je crois que c'est quelque chose qui peut permettre de lire Zola, lire autrement Zola, de découvrir justement ce Zola visuel qu'on ignore trop souvent.
J'accuse.
J'admire Courbet. Mais reportez-vous à cette époque où il peignait la baigneuse et le convoi d'Ornans.
J'accuse.
Parmi les écrans de Zola, évidemment, il y a aussi le modèle scientifique. Il y a aussi le modèle chimique, il y a aussi le modèle psychiatrique, il y a le modèle sociologique, etc.
J'accuse.
N'empêche, devant une telle illégalité, Dreyfus fut condamné, envoyé sur la côte américaine sous les tropiques à l'île du Diable.
C'est alors qu'Émile Zola s'est dressé dans un vibrant acte de foi et a écrit «
J'accuse. »
Pour dire que l'influence de Nana est doublement bénéfique pour la littérature néo-hellénique, parce que les auteurs non seulement prennent conscience du caractère national qu'introduisait le réalisme, mais réalisent aussi petit à petit que pour comprendre et corriger la société, il faut entrer au cœur des choses.
J'accuse.
Voilà donc ce qu'apportent les peintres impressionnistes. Une recherche plus exacte des causes et des effets de la lumière, influant aussi bien sur le dessin que sur la couleur.
J'accuse.
Et la plus belle part de son œuvre, c'est le roman. J'espère que on a donné envie à vos auditeurs de relire Zola à travers cet œil.
Il faut relire Émile Zola, nous disent tous les spécialistes. Zola, il y a 100 ans, probablement assassiné par ses ennemis politiques. Relire, ça veut dire le lire mieux en se débarrassant des préjugés qui nuisent à la réception intime de son œuvre. Et parmi les milliers de pages qu'il nous a laissées, on a le choix. Thérèse Raquin, quelques volumes de la Somme des Rougon-Macquart peut-être, les Évangiles, mais aussi la correspondance ou les très nombreux articles sur la peinture ou sur la méthode naturaliste.
Je ne suis pas un savant, je ne suis pas un historien, je suis un romancier. Tout ce qu'on doit me demander, c'est de partir du connu, d'établir solidement le terrain où j'entends me placer, et c'est pourquoi je me documente, puisant aux sources indispensables. Ma fonction ne commence qu'ensuite, et ma fonction est de faire de la vie, avec tous les éléments que j'ai dû prendre où j'étais. La question est uniquement de savoir, alors, si j'ai su rassembler sur un sujet tout ce qui flotte dans l'air du temps, si j'ai su d'une main solide choisir et nouer la gerbe, si j'ai su reprendre et résumer et recréer les choses et les êtres à ce point de formuler l'hypothèse de demain, d'annoncer l'avenir. Ai-je donné mon souffle à mes personnages? Ai-je enfanté un monde? Ai-je mis sous le soleil des êtres de chair et de sang aussi éternels que l'homme? Si oui, ma tâche est faite, et peu importe où j'ai pris l'argile. Les notes ne sont que des moellons dont un artiste doit disposer à sa guise le jour où il bâtit son monument. J'use sans remords de l'erreur volontaire quand elle s'impose par une nécessité de construction. Et je n'ai pour but que la vie. Je ne tiens à la vérité que parce qu'elle enfante la vie. Émile Zola.
Relire Zola, les invités de thématique nous y invitent. Patricia Carle et Béatrice Desgranges, auteurs d'un CD-ROM, le musée imaginaire d'Émile Zola. La chercheuse en littérature comparée, Evstratia Octapoda, qui s'est intéressée à l'influence politique de la traduction de Nana en grec. Et puis il sera question aussi de l'affaire Dreyfus, qu'on ne peut pas passer sous silence. L'occasion d'entendre des voix lointaines retrouvées dans nos archives. Celle d'Alfred Dreyfus et celle du fils d'Émile Zola. René Clair nous lira de larges extraits du célèbre J'accuse. Émile Zola, 100 ans après, une émission d'Anne-Marie Rine et Louis-Philippe Ruffi dans la réalisation de Bruno Seriba.
Le dialogue n'a sans doute jamais cessé entre Manet et Zola. Germinal est le roman de la lutte des classes,
Patricia Carl et Béatrice Desgranges sont toutes deux passionnées de Zola et travaillent à quatre mains. Elles sont les auteurs d'un CD-ROM intitulé « Le musée imaginaire d'Émile Zola ». Béatrice Desgranges.
Oui, je suis philosophe, et enfin professeur de philosophie, on va dire plus modestement, et je dois dire que je n'avais jamais lu Zola, puisque peut-être justement, il y avait un interdit encore dans ma génération, j'ai 51 ans, et lorsque pour la première fois je suis revenue du lycée en disant « Papa, est-ce que t'as Zola dans ta bibliothèque ?» parce que mon prof m'a dit qu'il fallait lire Zola. Il a littéralement levé les bras au ciel. Il m'a dit, ma pauvre petite fille, il y a quand même autre chose à lire que Zola. Lis donc Balzac. Donc je me suis mise à lire Balzac parce que j'étais une petite fille sage. Et c'est Patricia qui m'a, je dois dire, tout appris et révélé Émile Zola. Parce que vraiment, ça a été une révélation pour moi.
Mais vous parliez d'interdit. C'était quoi l'interdit? C'était immoral pour une jeune fille ou bien c'était simplement pas intéressant?
Ben, je dirais que c'était les deux à la fois. D'abord, Zola passe pour ne pas être un grand romancier. Hein. C'est de la petite littérature encore pour beaucoup de nos collègues. Et puis, bien sûr, Zola, c'est immoral. Hein. Vous savez, Françoise Dolto, la grande psychanalyste, disait, quand elle était petite, on lui disait « va chercher ton Zola », ça voulait dire « va chercher ton pot de chambre hein, ». Donc, Zola, caca, littéralement.
Patricia Carl, alors cette réputation de Zola, ça vient d'où en fait? Ça vient d'une mauvaise lecture ou d'une lecture trop partielle des romans?
Certainement d'une lecture trop partielle, puisque bon, le grand public ne connaît de Zola en général que L'Assommoir et Germinal. Et quand on dit c'est du Zola, on veut dire c'est misérabiliste. Or, en cette année de commémoration, où la part belle faite à Hugo, ben, je crois que c'est plutôt du côté de Hugo qu'il faut chercher le misérabilisme. Parce que si on relit Les Misérables, et si à côté on relit Nana, Le Ventre de Paris, ben, on s'aperçoit que c'est chez Hugo qu'on trouve les prostituées rancœur, vierges de cœur, les forçats qui redeviennent honnêtes, puissants, riches. Et puis chez Zola, ben, on a des prostituées qui sont bêtes, avides. On a des forçats qui s'évadent de Cayenne, retournent à Cayenne, et même les honnêtes gens chez Zola, si on regarde Le Ventre de Paris, sont d'infâmes gredins. Donc, il y a au contraire un refus du misérabilisme chez Zola.
Zola misérabiliste, c'est une chose qu'on lui a reproché, mais on lui a pas reproché que ça, parce que le reproche fondamental, c'est que c'était pas un très bon écrivain, c'est que c'était quelqu'un de plutôt une sorte de journaliste, en fait, non?
Voilà, ça c'est très très juste ce que vous dites. Et Zola lui-même conteste cette version de sa littérature. Je dirais, comme le disait Georges Duhamel, que Zola a été décrié beaucoup par les gens qui ne l'ont pas lu. Or, quand on lit la totalité de l'œuvre de Zola, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas que des études sociales dans Zola. Pas du tout, au contraire. Je cite au hasard quelques lignes du docteur Pascal, qui est le dernier livre de la série. Mais il dit, eh bien, dans les Hurons Macquart, il y a de la fantaisie, il y a des jardins immenses, fleurit en toute saison, des cathédrales, il y a du vulgaire et du sublime, le torrent même de la vie charriant sans fin l'humanité. Je crois que c'est cette ambition de totalité de Zola que l'on n'a pas vue parce qu'on a voulu le réduire à ce réalisme que lui-même conteste de manière extrêmement intelligente.
Le romancier naturaliste affecte de disparaître complètement derrière l'action qu'il raconte. Il est le metteur en scène caché du drame. Jamais il ne se montre au bout d'une phrase. On ne l'entend ni rire ni pleurer avec ses personnages. Pas plus qu'il ne se permet de juger leurs actes. C'est même cet apparent désintéressement qui est le trait le plus distinctif. On chercherait en vain une conclusion, une moralité, une leçon quelconque tirée des faits. Il n'y a d'étalé, de mise en lumière uniquement que les faits, louables ou condamnables. L'auteur n'est pas un moraliste, mais un anatomiste qui se contente de dire ce qu'il trouve dans le cadavre humain. Les lecteurs concluront s'ils le veulent, chercheront la vraie moralité, tâcheront de tirer une leçon du livre. Quant au romancier, il se tient à l'écart, surtout par un motif d'art, pour laisser à son œuvre son unité impersonnelle, son caractère de procès-verbal, écrit à jamais sur le marbre. Il pense que sa propre émotion gênerait celle de ses personnages, que son jugement atténuerait la hautaine leçon des faits. C'est là toute une poétique nouvelle dont l'application change la face du roman. Émile Zola.
groupe-là invente, on pourrait dire, le concept de naturalisme, enfin l'idée de naturalisme contre l'idée du réalisme. Donc confondre les deux, c'est tout à fait pervers, puisque Zola revendique la part de mensonge qu'il y a dans l'œuvre d'art. Hein, donc il invente le concept de naturalisme pour se démarquer de l'illusion réaliste. Parce que pour lui, l'œuvre d'art est une sorte de fenêtre ouverte sur la création, mais il écrit « Cependant, il y a toujours enchâssé dans l'embrasure de la fenêtre une sorte d'écran transparent à travers lequel on aperçoit les objets plus ou moins déformés. » Zola pense que il y a un écran entre la vision du romancier et la réalité. Et cet écran varie selon les époques, selon les tempéraments, selon l'idéologie, selon éventuellement la classe sociale. Donc il y a déjà l'écran du romancier, puis il y aura aussi l'écran des personnages. La réalité chez Zola sera vue à travers, l'écran qui convient le mieux à la psychologie de son personnage. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour ce qui est du romancier, au niveau théorique, il rappelle que pour lui, il y a trois écrans au moment où lui se lance dans la littérature. L'écran classique, qui a tendance à privilégier les lignes au détriment de la couleur. L'écran romantique qui, au contraire, exalte la couleur, mais au détriment de la forme, qui gonfle la forme, qui opère des distorsions. Enfin, c'est le romantisme. Au niveau de la peinture, c'est Delacroix. C'est Hugo, c'est l'antithèse hugolienne, excès, etc. Et puis l'écran réaliste, qui, dit-il, si mince qu'il soit, n'en a pas moins sa couleur propre, une épaisseur quelconque, et cet écran, pour lui, teint les objets, les réfracte, tout comme un autre. Donc, même pour ceux qui se revendiquent du réalisme, il n'y a pas de photographie de la réalité, il y a toujours une interprétation de la réalité, il y a toujours un écran qui s'interpose entre le réel et le romancier.
Cet écran transforme quoi, le langage et la forme ou bien le contenu?
La forme et le langage, c'est effectivement un code commun finalement, code commun à celui qui écrit, à celui qui peint et aux valeurs dominantes d'une société peut-être, oui. Qu'on regarde Racine, c'est une écriture extrêmement linéaire, où vous avez un nombre de mots limité qui est répété, un certain équilibre classique, on parle toujours de cet équilibre. Regardez Hugo, c'est l'outrance, ça passe par la forme, ça passe par le langage, par l'antithèse, par le choix des mots, on disait qu'il fallait mettre un bonnet rouge au dictionnaire, ça passe par le lexique. Mais c'est vrai que c'est en rapport aussi avec le contenu. On ne dit pas les mêmes choses dans une tragédie de Racine et dans une pièce de Hugo. Une exaltation des sentiments, une schématisation aussi de la réalité, un petit peu chez Hugo, enfin à mon avis.
Justement, ce que Zola reconnaît à l'écran réaliste, qui est le dernier que l'histoire de l'art ait découvert au moment où il écrit cette lettre sur les écrans qui date de 1864, c'est-à-dire qu'il a 24 ans. Chez un jeune homme de 24 ans, c'est tout à fait extraordinaire de voir cette lucidité, cette analyse. Ce que reconnaît Zola à l'écran, c'est que c'est une fenêtre plus largement ouverte sur la création que l'écran romantique ou que l'écran classique. Le champ de vision s'est beaucoup élargi, parce qu'on voit le corps, on voit les classes pauvres. Mais, justement, ce que Zola conteste, c'est la prétention d'objectivité des réalistes. C'est ça. L'écran, c'est d'abord un mot... un écran, c'est un paravent. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait écran. Mais cet écran est plus ou moins transparent. Il déforme plus ou moins, et d'une manière originale, les contours, les couleurs, la réalité. Et sans se mentir là, il n'y a pas d'œuvre d'art, dit Zola. À 24 ans, je dis chapeau.
Mais est-ce que l'écran, c'est encore l'écran au XIXe siècle, c'est-à-dire la chose qui cache, ou est-ce qu'on est déjà à l'aube de l'invention éventuellement du cinéma, et où l'écran pourrait être quelque chose sur lequel on projette la réalité?
Je crois que là, c'est une très belle question. Et Zola anticipe vraiment le cinéma. Dans La Bête humaine, par exemple, les vitres du train éclairé sont un écran où le personnage principal projette ses fantasmes. Et en même temps, lit la réalité. C'est-à-dire, il voit un assassinat. Est-ce que cet assassinat est réel? Il l'est. Mais la bête humaine, c'est bien lui, Jacques Lantier, qui est pris d'une pulsion de meurtre et qui projette sur l'écran ce qu'il a en lui. C'est très complexe, cette notion d'écran chez Zola.
Et vous, vous n'avez rien vu?
Rien vu, monsieur le commissaire. Le train était presque vide.
Et vous, Lanty, où étiez-vous pendant ce temps-là?
Moi, j'étais dans le couloir.
Et vous n'avez vu passer personne?
C'est-à-dire, monsieur le commissaire, que j'avais une escarbille dans l'œil et ça me faisait mal, alors j'ai pas fait attention.
Je crois que Zola est un auteur qui est la victime d'une somme terrifiante de malentendus. Et que on n'a pas voulu le lire et que peut-être justement à le réduire à ces poncifs du réalisme, eh bien à ce poncif de la petite littérature, comme disent certains de nos collègues encore aujourd'hui, eh bien on fait justement écran à l'œuvre de Zola, parce que il y a cette tout auteur est pris dans un jeu de valorisation ou de dévalorisation littéraire. Ben Zola, il est d'emblée situé en bas. Parce qu'il a touché précisément à l'inconscient, au corps, à tous ces domaines qui sont des domaines interdits. Et finalement, ça a masqué le reste de son œuvre. Ça a masqué la diversité de son œuvre, la diversité de ses approches, qui sont de tous les ordres, scientifiques, sociologiques. Et donc, ça a masqué aussi, essentiellement, ce regard qu'il a porté sur le monde, et qui est un regard donc extrêmement varié, en fonction précisément de ses écrans. C'est quelqu'un qui a toujours eu le souci de faire varier la vision qu'il donnait du monde, en fonction de son propre tempérament, certes, qui se rapprochait de celui des impressionnistes, mais en fonction aussi du tempérament de ces personnages. C'est pour ça que chez Zola, on a, si vous voulez, du romantisme, on peut dire, mais quand le personnage est romantique, l'écran est romantique. Enfin, on en reparlera peut-être plus longuement après. Quand il peint les bonapartistes, enfin, de Plassans, qui appuient le coup d'État et qui s'emparent de la mairie, il utilise pour ses imposteurs l'écran académiste ou académique qui correspond à cette réalité. Et quand il peint la ville, quand il peint la campagne, quand il peint les nouveaux motifs, on va dire, eh bien l'écran est impressionniste. Il y a l'écran flamand dans Le ventre de Paris, il y a l'écran réaliste à la manière de Millet dans La Terre. Enfin, il y a une foule d'écrans. Ça, c'est au niveau, disons, de la vision qu'il donne du monde. Hein.
C'est un des mérites de la recherche contemporaine, si j'ai bien compris, de la recherche, disons, de ces 20, 30 dernières années, d'avoir mis en évidence une complexité du personnage et de l'écrivain. Mais en même temps, cette complexité, on pouvait l'imaginer déjà bien avant, dans la mesure où Zola a écrit un nombre incroyable de pages. C'est difficile d'imaginer un monolithe dans une œuvre aussi foisonnante et aussi diverse, parce qu'il y a, bon, bien sûr, il y a les romans, mais il y a tous les articles, les commentaires, les critiques d'art et d'autres choses, les rapports avec les musiciens, je veux dire, c'est une œuvre gigantesque.
Oui, je crois que Zola, c'est vraiment un polygraphe. Hein. C'est un homme orchestre de la plume, littéralement. Et vous avez raison d'insister sur le journaliste. Là, bon, on a publié sur le net, hein, la totalité, ou la quasi-totalité, peut-être va-t-on encore en ajouter un petit peu, parce que là, on est en train de travailler sur des textes totalement inédits, mais on a vraiment publié la quasi-totalité de ses écrits sur l'art, avec des renvois aux œuvres qu'il a dans la tête. Et puis, bon, ben, il y a un Zola politique. Il y a le journaliste qui suit au jour le jour la commune sur laquelle on est en train de travailler et que là encore on va bientôt éditer. Mais je crois que Zola, même dans tous les... Même je dirais quand il se fait musicien. Parce qu'il y a un Zola musicien, comme vous le disiez. Bon, il y a la fameuse symphonie des fromages dans le ventre de Paris. Et quand il commente les débats parlementaires, hein, de l'Assemblée de Bordeaux ou de l'Assemblée de Versailles, il met en scène la babel parlementaire, l'orchestre, la cacophonie parlementaire. Mais quand même, ce qui domine, c'est toujours l'écran visuel. Zola est vraiment d'abord et avant tout un visuel, même si je dirais il a tout un tas d'instruments ou d'outils graphiques à sa disposition. C'est d'abord quand même le visuel qui prime.
Dans tous mes livres, j'ai été en contact et échange avec les peintres.
Présenté au salon de 1868, le portrait de Zola par Manet est un véritable manifeste de cette écriture en images. Reprenant la technique japonaise des estampes, que l'on découpe et que l'on colle sur les paravents au gré de sa fantaisie, il constitue tout à la fois un hommage subtil du peintre à l'écrivain et un rébus proposé à la sagacité du spectateur. Sur les genoux du romancier, un livre d'images, l'histoire des peintres de Charles Blanc, témoigne de la culture esthétique qui nourrit l'écriture zolienne. L'encrier, où trempe joliment sa plume, unit ce texte savant au bouquet, ou mieux à l'éventail, des œuvres premières du jeune critique d'art. Car Zola n'a pas 30 ans, qu'il a déjà vigoureusement pris part pour Manet contre les tenants de la gueule. La brochure sur Manet, avec sa couverture bleue barrée de cette plume insolente, semble comme le couronnement d'œuvres déjà plurielles que l'on reconnaît aux couleurs vives des couvertures. Au texte du romancier répondent en écho des images. Celle qu'il a défendue contre le zèle imbécile de l'école, la scandaleuse Olympia. Celle de la tradition qu'il vénère, les buveurs de Velasquez. Celle qui renouvelle le regard de la génération bante, les estampes japonaises. Et c'est sans doute l'estampe de Kuniaki qui donne la clé de ce rébus. Représentant un lutteur, elle dit les combats jumeaux de Zola par le texte et par l'âge, ou plutôt par l'image dans le texte, au service de l'impressionnisme et du naturalisme. Car la nature est là, elle aussi, dans les courbes élégantes des ruisseaux, des branches et des fleurs qui sillonnent le fond doré d'un paravent japonais, où une délicate hirondelle annonce l'aurore d'un nouveau printemps.
Alors venons-en, Bertrice Desgranges et Patricia Carle, à ce qui est votre grande œuvre pour le moment, ce qui est signalé par la presse comme une œuvre fort intéressante. C'est un CD-ROM que vous avez publié il y a 2 ans sur le musée imaginaire de Zola. C'est le titre, hein, le musée imaginaire de Zola. Vous parliez de ce Zola visuel, ce Zola de la vision. Donc c'est en quelque sorte pour mieux rendre compte d'un personnage comme ça que vous avez eu envie de vous adresser à des moyens modernes, des moyens visuels modernes.
Oui, ça fait très longtemps qu'on rêve. On a rêvé bien avant que les outils informatiques soient à notre disposition, existent tout simplement. On a rêvé de cet outil parce que la masse extraordinaire, c'est quasiment faire un livre là-dessus, c'est aussi un grand projet évidemment. Mais faire un livre là-dessus, ça demande, j'irais, peut-être tellement de pages que c'est presque impossible, tandis que faire un CD-ROM, une galette de quelques grammes, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et là, il y a aussi cette interactivité qui est extraordinaire qu'on peut montrer. Hein. Et notre CD-ROM, était faite donc par les éditions aujourd'hui Page Jaune, qui sont les éditions Oda au savoir-faire bien connu en matière de contenu culturel. Et je veux dire que les animations, toutes des animations flash, hein, les informaticiens reconnaîtront ce format, c'est vraiment font voir. font voir le détail. Bon, vous voulez, on a des textes qui sont dits par des comédiens, qui sont évidemment les textes qu'on a répertoriés, qui montrent comment justement Zola utilise l'écran de la peinture pour décrire la réalité. Et au fur et à mesure que le comédien dit le texte, eh bien, le détail qui a accroché l'œil de Zola, le détail vient avant par cette magie de l'animation flash. Voilà, je crois que c'est quelque chose effectivement qui est très pédagogique. D'ailleurs, CD-ROM est reconnu d'intérêt pédagogique. Il a été distribué gratuitement dans beaucoup de lycées et d'IUFM, c'était l'institution de formation des maîtres. Et je crois que c'est quelque chose qui peut permettre de lire Zola, lire autrement Zola, de découvrir justement ce Zola visuel qu'on ignore trop souvent.
Alors c'est une recherche très très importante parce qu'il fallait retrouver des textes qui sont nombreux, il fallait retrouver des peintures qui sont en relation. Comment vous êtes partagé ou comment vous avez organisé ce travail, Patricia Carl?
On a beaucoup lu sur la peinture déjà. Le premier travail c'est de connaître la peinture et ensuite de relire Zola et de faire les recoupements, de voir justement comment Zola, qui a présente à l'esprit une toile, hein, puisqu'il connaissait bien les ateliers, il connaissait bien la peinture de son temps bien évidemment, et pas seulement les peintres officiels dont il rendait compte des œuvres au salon. Donc, si vous voulez, on a essayé de voir comment Zola utilise ce qu'on pourrait appeler une écriture iconographique, comment il dramatise une toile. En fait, il part d'une toile, même de toile fort connue, et il décrit, bien sûr, et il s'en sert pour camper ses personnages éventuellement, mais il construit aussi son drame, parfois, à partir de la toile.
C'est avec une rigueur d'entomologiste que Zola décrit la ruche souterraine que constitue la mine. Son regard allait les moindres détails, de la manière d'exploiter un filon à la terreur d'un cheval. Le compte-rendu scrupuleux fait écho aux gravures de Simonin qui retracent, elles aussi, la vie dans la mine.
Cette veine était si mince qu'il se trouvait là comme aplati entre le toit et le mur. Il devait, pour attaquer la houille, rester couché sur le flanc, le cou tordu, les bras levés et brandissant de biais la rivelaine, le pic à manche court. C'était Maheu qui souffrait le plus. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa lampe à un clou près de sa tête, et cette lampe qui chauffait son crâne achevait de lui brûler le sang.
Bon, il y a la peinture qui est l'écran privilégié, mais bon, il y a aussi la gravure. Bon, il y a des choses relativement simples. La gravure, bon, c'est bon pour Germinal, même dans une œuvre où on ne l'attendrait pas, il y a l'écran de la gravure. Bon, il s'est inspiré pour écrire Germinal de l'ouvrage de Simonin, La vie souterraine, et cet ouvrage documentaire est illustré par des gravures. Et en fait, on se rend compte que les gravures qui scandent le livre de Simonin correspondent aussi aux grandes scansions du roman, c'est-à-dire que Zola, très visuel, s'arrête sur une image et en fait, par exemple, la descente du cheval bataille dans l'œuvre romanesque, la descente du cheval dans la mine, on le descend dans un filet et donc on voit sur la gravure et Zola reprend à son compte l'œil terrifié, si vous voulez, du cheval qui est effrayé de la vie de forçat qui l'attend, quoi, il va plus voir le jour. Zola reprend ce détail et dramatise la scène et décrit la descente du cheval et par ailleurs, bon, il reprend les grands moments du roman correspondent aux gravures. Il y a le coup de grisou, l'inondation, l'incendie, même les souvenirs des anciens mineurs qui remontaient le charbon sur des échalots d'hommes. On a même la reprise d'une image qui montre l'ingénieur descendant dans des tonneaux pour venir en aide aux sinistrés, on va dire. Donc on a autant, si vous voulez, de temps forts du roman qui correspondent à ces gravures en noir et blanc. Et d'ailleurs, la couleur dominante de Germinal, c'est le noir et le blanc. Le noir des terrils, le noir de la mine et le blanc de la neige. Donc déjà, dans la gravure, on a une sorte d'écran. Donc là, il est facile de voir les correspondances.
C'est que Zola ne fait jamais les choses au hasard. C'est-à-dire que quand un ouvrier instruit lit... Qu'est-ce qu'il lit avant tout? Ben lui, justement, il lit pas des romans. Il lit des ouvrages documentaires. Justement, donc, Zola, quand il veut décrire la mine, il va pas prendre n'importe quel écran. Bien sûr, il prend la gravure parce que c'est un art du noir et du blanc, mais peut-être aussi parce que c'est l'écran privilégié de celui-là même qu'il met en scène, si vous voulez. Étienne, ouvrier instruit, ouvrier machineur, donc l'aristocratie du mineur. Et donc, lui...
cet ouvrier, eh bien, sa référence culturelle, c'est précisément la gravure. Car Zola, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, que là encore, malheureusement, on ne voit pas, parce que on a tellement justement dit « Oh, ces éternelles descriptions de Zola, qu'est-ce qu'on en a marre, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que ça nous fait brère, j'avais encore une élève qui me le disait hier, c'est ennuyeux, etc. » Mais ces descriptions sont fantastiques, parce que justement, Zola met en abîme, c'est-à-dire introduit dans le récit, les apparatiques, les machines à percevoir qui sont solidaires des classes et de la culture qu'il est en train de peindre. Si vous voulez, par exemple, quand il veut décrire la vision des hommes et du peuple, eh bien, il privilégie des écrans qui sont les machines d'image de la culture populaire, en particulier, d'abord et avant tout, le théâtre d'ombre. Par exemple, prenons le ventre de Paris. Le ventre de Paris, dans lequel on a une vieille dame, une vieille fille qui s'appelle Mademoiselle Saget. Saget, d'ailleurs, ça veut dire la flèche, hein, la sagette. Sagette, c'est une flèche. Et elle est curieuse comme une cette Mademoiselle Saget. Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle passe son temps à sa fenêtre. Et elle voit en face de chez elle la vitre du café qui est éclairée par derrière. Et donc, dont la fenêtre se transforme en un théâtre d'ombre. Et elle suit comme ça tout un complot qui se déroule. Tout le complot qui se trame chez le cabaretier qui s'appelle donc le bigre. Et elle interprète cette image, qui est une image mythe. Elle interprète les nez allongés, les épaules qui bougent. Et puis, tout d'un coup, un jour, elle a la révélation de qu'elle attendait. C'est-à-dire qu'il y a un profil noir d'un énorme pistolet qui se détache sur cette vitre. Et là, elle comprend le complot contre Napoléon III. Donc, vous voyez, dans chaque roman, Zola met en scène non seulement le sujet, mais justement l'écran à travers lequel chacun voit le sujet en fonction des appareils optiques dont il est familier, en fonction de sa culture.
On a un autre exemple dans l'Assommoir. Là, c'est le spectacle du Guignol qui est mis à contribution. Quand Gervaise, condamnée à la prostitution, on va dire, parcourt les rues et voit le chahut de son ombre à la lumière des becs de gaz. Là, c'est un vrai spectacle de Guignol. Hein, et donc, on voit bien que Zola n'est pas, à ce moment-là, bon, j'ai plus la citation sous les yeux, n'est pas réaliste, on va dire, mais expressionniste avant la lettre, hein, puisqu'on a une distorsion des formes, une espèce d'exubérance qui n'a rien de platement réaliste. Sur le sol, l'ombre faisait la culbute à chaque pas, un vrai Guignol. Puis lorsqu'elle s'éloignait, le Guignol grandissait, devenait géant, emplissait le boulevard avec des révérences qui lui cassaient le nez contre les arbres et contre les maisons.
Autre appareil optique, qui est peut-être le plus bel appareil optique qu'on trouve là, le panorama. Alors le panorama, c'est le plus grand art de l'illusion. Et j'insiste sur le mot illusion, justement. Car, je répète, il n'y a pas de réalisme chez Zola. Zola revendique le mensonge, sans lequel il n'y a pas d'œuvre d'art. Lorsque donc le personnage principal, qui s'appelle Florent, arrive à Paris, ça, il a été 7 ans à Cayenne, c'est un ancien forçat. Alors Paris a changé. Paris a changé et les halles de Baltard ont été construites et c'est quelque chose de gigantesque. Et le jeune Florent, c'est un jeune homme du peuple, mais instruit, à demi instruit. Eh bien, il va utiliser pour voir les halles cet appareil optique qui est, on pourrait dire, une sorte d'art moyen. Mi-théâtre, mi-spectacle de foire, si vous voulez, mi-exposition artistique. Alors, qu'est-ce que c'était que le panorama ? C'était une gigantesque rotonde peinte. On en trouve une, il y en a encore une en Europe, c'est à La Haye, hein, où il y a le merveilleux panorama de Mesdag. Alors, ce panorama, il avait été perfectionné par Daguerre et Bouton, qui en avaient fait un diorama. Qu'est-ce que c'était que le diorama ? On peignait une immense toile circulaire sur les deux côtés. La toile était transparente. Sur le devant de la toile, on peignait ce qu'on appelait un effet de jour. Et sur l'arrière de la toile, on peignait ce qu'on appelait un effet de nuit. Le spectateur était brutalement précipité au milieu de cette toile, immense, hein, qui faisait 15 mètres peut-être de diamètre. Hein. Il était brutalement, il arrivait au milieu, et qu'est-ce qu'on faisait ? On éclairait soit verticalement, soit latéralement. Par le haut, donc par la verrière, on faisait un éclairage zénithal ou un éclairage latéral. Et précisément, on faisait passer la lumière à travers des écrans colorés, ce qui permettait de donner l'illusion du temps qui passe. Quand on éclairait de manière zénithale le panorama, seul était visible l'effet jour. Quand on éclairait par les lumières latérales à travers des écrans colorés, on faisait apparaître l'effet de nuit. Si bien que on faisait ainsi passer
du matin, de l'aube, jusqu'au crépuscule. Eh bien, je vais vous donner une citation de cette découverte des Halles par Laurent, et vous allez voir justement cette mise en abîme. Voilà ce qu'il écrit. « La lumière de 5 heures entrait par les baies. C'était comme un transparent lumineux et dépoli, où se dessinaient les arêtes minces des piliers, les courbes élégantes des charpentes, les figures géométriques des toitures. Il s'emplissait les yeux de cette immense épure lavée à l'encre de Chine sur un vélin phosphorescent. À chaque heure, les jeux de lumière changeaient ainsi les profils des halles, depuis les bleuissements du matin et les ombres noires du midi, jusqu'à l'incendie du soleil couchant, s'éteignant dans la cendre grise du crépuscule. » Voyez ici Zola. Il a tout ce dispositif optique du panorama dans la tête, et donc il vous montre, il vous dit « Attention, quand je décris quelque chose, ce n'est jamais la réalité. Je donne à mes personnages le regard qu'ils peuvent avoir, étant entendu que justement ce regard est médiatisé par l'écran des appareils à percevoir qui appartiennent à sa culture, à sa classe, à son époque, à sa société. »
Il y a deux éléments que vous avez cités, l'une et l'autre, Patricia Carle et Béatrice Desgranges. C'est d'une part l'aspect documentaire, c'est-à-dire la documentation que Zola aurait pu rassembler pour écrire un livre, c'est l'aspect travail préalable. Et l'autre chose, c'est ce qu'on découvre de ces dispositifs et de cette théorie de l'écran à travers l'œuvre. Mais on a toujours l'impression que Zola, lorsqu'il préparait ses œuvres, c'était plutôt quelqu'un qui écrivait. C'est-à-dire qu'on parle toujours de Zola qui fait des petits brouillons, qui gribouille des choses, qui va se faire sa petite enquête et qui écrit. Alors qu'on sait qu'il faisait de la photo, on sait qu'il s'intéressait à l'art, mais on imagine moins qu'il travaillait à partir d'images.
Disons qu'on connaît de Zola les dossiers préparatoires, effectivement, avec l'ébauche, d'ailleurs terme pictural, avec les plans, les deux plans successifs, mais bon, avec aussi des croquis quand même. Hein, il dessine Zola, hein, quand il va à la Goutte d'Or, il dessine la maison de la Goutte d'Or, bon, il dessine les Halles de Paris, du ventre, qui sont les Halles du Ventre de Paris. Mais c'est vrai que sur les sources qui vont médiatiser son regard, qui sont les sources picturales, il ne dit pas grand-chose. Par deux fois seulement dans les dossiers préparatoires, sont évoquées des toiles qui serviront effectivement de support à certaines scènes. Il évoque une toile de Rolle de 1880 dans le dossier préparatoire de Germinal, une grève en 1880 justement. Et la seconde fois où une source picturale apparaît, c'est dans l'œuvre. C'est pour évoquer le tableau de Gervex qui lui servira à décrire le jury du salon de peinture. Et d'ailleurs, il n'a jamais cité ses sources. Mais bon, quand on lit l'œuvre, il est facile de trouver, les écrans qui viennent de la peinture. Parce qu'en fait, on a parlé des appareils optiques, on a parlé des spectacles, le spectacle de Guignol. Mais l'écran principal, c'est la peinture.
Les critiques du salon de 1851 n'ont guère apprécié le semeur de Millet. La vérité du geste et du vêtement, la présence charnelle du corps, la pesanteur de la glaise ont scandalisé les délicats et les bien-pensants. Pourtant, à sa manière, Millet a sanctifié ce paysan dont la silhouette se découpe à contre-jour dans la lumière vibrante du couchant. C'est précisément cette image du peuple nourricier qui ouvre la terre.
Jean, ce matin-là, un semoir de toile bleue noué sur le ventre, en tenait la poche ouverte de la main gauche, et de la droite, tout bas, il y prenait une poignée de blé que d'un geste à la volée il jetait. Ses gros souliers trouaient et emportaient la terre grasse dans le balancement cadencé de son corps, tandis que, à chaque jet au milieu de la semence blonde toujours volante, on voyait luire les deux galons rouges d'une veste d'ordonnance qu'il achevait d'user.
Dramatisant la toile de Millet, dont le semeur occupe toute la surface de la toile, campe lui aussi son personnage dans un premier plan brutal.
Seul, en avant, il marchait, l'air grandi. Et derrière, pour enfouir le vin, une mer se roulait lentement, attelée de deux chevaux, qu'un charretier poussait à longs coups de fouet réguliers, claquant au-dessus de leurs oreilles.
Si vous voulez, il va adopter un écran en fonction du thème dominant de son roman. Si il peint la terre, bon, il va aller chercher du côté de Millet. Bon, pourquoi Millet? Parce que sous le Second Empire et sous la Troisième République, chez les autres peintres, chez l'ermite, bon, par exemple, on a des paysans idéalisés, bon, qui sont les paysannes sont des déesses en haillons, haillons bien propres d'ailleurs. Et bon, il n'y a que chez Millet qu'on trouve la brute de l'homme à la houe. Je ne sais pas si vous voyez cette toile, un paysan harassé sur, ce, sur sa houe, avec une tête de, vraiment de brute, c'est le mot. Donc il n'y a que chez Millet qu'on trouve ce réalisme-là. Là, on peut parler de réalisme. Qu'est-ce qu'on a encore, une autre toile? Bon, le paysan répandant du fumier, qui doit choquer les bien-pensants. Et donc, c'est là qu'il trouve finalement les paysans qu'il veut camper lui et qui n'ont rien d'idéalisé. Hein. On a chez Zola dans la terre, bon, la grande, un personnage qui s'appelle la grande qui engueule le bon Dieu. On a, bon, des paysans criminels, incestueux, enfin bon, et l'univers de Millet, d'une certaine façon, lui fournit l'écran qui lui permet de peindre cette paysannerie. Et d'ailleurs, on a un exemple intéressant d'anachronisme. Quand Zola peint le semeur, donc il s'inspire de la toile de Millet qui s'intitule Le semeur, il en adopte le thème et la mise en page, puisque donc il reprend le grandissement épique qu'on trouve chez Millet, puisqu'il y a une mise en page originale chez Millet qui fait du semeur le sujet vraiment principal de la toile qui vient en avant. Le semeur occupe à peu près les 9/10 de la toile. Et Zola, soucieux d'évoquer l'anachronisme, enfin de justifier en quelque sorte l'anachronisme que constitue l'évocation d'une telle toile et d'un tel personnage à un moment où la mécanisation a fait son œuvre, eh bien, trouve un artifice littéraire, un artifice romanesque pour justifier la présence de ce semeur en lançant son grain comme ça. Il dit, bon, ben, la parcelle était trop petite, j'ai plus la citation sous les yeux, et donc on n'avait pas voulu utiliser le semoir mécanique. Donc il sait très bien qu'il utilise l'écran et que cet écran est anachronique, et il le fait quand même.
D'emblée, l'église de Rogue paraît évoquer l'église de Gréville, de Millet.
L'église dressait en haut son clocher de pierre grise, habité par des familles de corbeaux très vieilles. On entendait le croassement de deux corbeaux qui tournoyaient d'un vol continu autour du clocher. Trois coups de l'Angélus tintèrent dans l'air mort.
Zola esquisse comme le peintre une série des quatre saisons où la plaine se découvre sous le soleil ou sous la neige. Dès 1855, dans Les Glaneuses l'été, Millet avait peint des meules qui anticipaient celles de Monet.
Les blés avaient des aigrettes de rose. Les chaumes hérissaient des brins de vermeil luisant. Les meules semblaient grandir démesurément, flambantes d'un côté, déjà noires de l'autre.
Il y a une série des travaux des hommes, il y a une série des travaux des femmes dans la terre. Et par exemple, là aussi, une toile très connue, et je renvoie vos auditeurs à n'importe quelle histoire de l'art, qu'ils regardent bien le tableau de Millet, vous verrez que peut-être d'ailleurs, ils apprendront peut-être à voir à travers de Zola des détails qu'ils n'avaient pas vus. Je lis donc la description de, ça doit être autant qu'ils me souviennent, Lise à sa lessive, ou je sais plus si c'est Françoise ou Lise à sa lessive, peu importe. Voilà ce qu'écrit Zola. L'eau de cendre bouillait dans un chaudron couché à la crémaillère au-dessus d'un feu clair de peuplier. Et les bras nus, la jupe retroussée, Lise, c'est donc Lise, armée d'un pot de terre jaune, puisait dans cette eau, arrosait le linge dont le cuvier était rempli. La Frima causait, en se contentant toutes les 5 minutes, d'enlever et de vider dans le chaudron le seau qui, sous le baquet, recevait les gouttures continues de la lessive. Eh bien, tout y est. Le feu clair de peuplier, l'âtre, le pot jaune, le seau, le baquet. Vraiment, c'est ça la description dramatisée. Transformer une image en récit. Et toute la terre, de la même manière que Germinal dramatise tous les temps forts du livre de Simenon, eh bien dans la terre, on a une exposition de tableaux de Millet, dont Zola, dans ses œuvres, critique, dit quoi? Il dit qu'il en aime la peinture grasse et solide. Eh bien, cette peinture grasse et solide, elle va être l'écran à travers lequel il va voir les paysans de la terre, en grande partie.
Et puis, dans les citations que vous avez données, il y a une chose assez frappante, c'est que on a non seulement une image, mais on a une action. Alors, l'action, c'est ce qu'il perçoit dans la peinture, ou bien c'est ce qu'il invente, en quelque sorte, ce qu'il raconte, lui, comme histoire?
Oui, c'est ça. C'est ça, justement, ce concept de description dramatisée. Hein, justement, chez Zola, la description n'est jamais statique. Bon, et ça aussi, c'est une grande différence par rapport à Balzac. Qu'on relise le début du Père Goriot, par exemple. Qu'est-ce que fait Balzac? Balzac, il campe la ville. Bon, alors il vous fait toute une description de la ville. Ensuite, le quartier. Puis, la rue. Puis, la maison. Par exemple, la pension Vauquer. Puis, la pièce principale. Puis, chaque meuble qu'il va détailler avec une précision de commissaire-priseur, comme disait Zola, justement. Puis, les habitants. Hein, chez Zola, c'est jamais comme ça. chez Zola, il y a une scénarisation. Vous parliez tout à l'heure du cinéma. Il a une intuition cinématographique, Zola. Effectivement, il met l'étoile en mouvement. On parlait tout à l'heure, on disait c'était un visuel, c'est un visionnaire, c'est, pour nous c'est un génie, disons-le, c'est un génie.
Renoir. Monsieur Renoir est surtout un peintre de figures. Il a une gamme blonde de tons qui se décolore et se fonde avec une harmonie adorable. On dirait des Rubens sur lesquels reluit le grand soleil de Velázquez. Je regrette de ne pouvoir accorder une large place à trois paysagistes que j'aime, messieurs Corot, Daubigny et Pissarro. Le déjeuner sur l'herbe est la plus grande toile d'Édouard Manet, celle où il a réalisé le rêve que font tous les peintres, mettre des figures de grandeur naturelle dans un paysage. La femme nue a scandalisé le public qui n'a vu qu'elle dans la toile. Cela ne s'était jamais vu. Cette croyance était une grossière erreur, car il y a au musée du Louvre plus de 50 tableaux dans lesquels se trouvent mêlés des personnages habillés et des personnages nus. Voilà un peintre de l'originalité la plus vive qui, depuis 10 ans, s'agite dans le vide, parce qu'il s'est jeté dans des sentiers de traverse au lieu d'aller tout bourgeoisement devant lui. Il avait exposé au salon de première toile fort remarqué, puis le jury s'avisa de le refuser. Cette année, il est revenu au salon avec une toile dont je parlerai plus loin, mais qu'on paraît avoir reçue par charité et pour mal placée. C'est un pays, Lavacour.
On les appelle impressionnistes parce que certains d'entre eux paraissent vouloir rendre surtout l'impression vraie des êtres et des choses sans descendre dans l'exécution minutieuse qui enlève toute sa verdeur à l'interprétation vive et personnelle. Pour moi, le groupe d'artistes en question est simplement un groupe d'artistes naturalistes.
Cette synonymie entre impressionnisme et naturalisme, je crois qu'on peut en donner un exemple tout à fait emblématique, effectivement, quand dans La Faute de l'abbé Mouret, on voit Albine et Serge qui marchent dans des herbes limpidement bleues, qui sont piquées ça et là de pétards rouges, qui traversent des mares pourpres de coquelicots. Bon, à l'évidence, Zola a présent à l'esprit l'étoile de Monet et de Renoir, chemin montant dans les hautes herbes, et bien justement les coquelicots qui précisément se sont refusés au salon de 1873. Voilà.
On a parlé donc de cette marque de la peinture dans l'œuvre de Zola. On a dit qu'il avait écrit aussi beaucoup de critiques sur des tableaux, sur des peintres. Quels étaient au fond ses rapports tout à fait quotidiens avec la peinture? Est-ce qu'il fréquentait des peintres? Est-ce qu'il connaissait bien la peinture, tout simplement?
Oui, mais quand il arrive à Paris, il se plaint même de ne connaître que des peintres. Donc, il est très vite chargé du compte-rendu du salon officiel. Et bon, ben, c'est pas la peinture qu'il aime, hein. Il est obligé de commenter des toiles qu'il n'aime pas bien souvent. Et bon, il est en contact constant avec ses amis peintres et il visite les ateliers. Donc, il connaît la peinture, presque aussi bien que les peintres, on pourrait dire, hein. Et c'est dans les ateliers qu'il va chercher l'art vivant. Il voit les peintres travailler. Bon, il voit leurs toiles. Bon, il en commande quelques-unes quand même après, dans certains salons, quand les impressionnistes exposent au salon, parce que c'est quand même arrivé. Et bon, on pourrait dire qu'ils partagent leur palette aussi, hein, puisque les impressionnistes se sont beaucoup inspirés des travaux de Chevreul pour montrer la décomposition de la lumière blanche par le prisme. Et Zola reprend à son compte cette espèce de fragmentation de la touche qui est celle des impressionnistes. Et quand il décrit la scène, par exemple, il évoque, au lieu d'évoquer, disons, un ruban vert, gris-gris, enfin bon, traditionnel, celui de la convention, il évoque au premier plan des touches de couleur pure qui sont pratiquement les touches de Monet dans les bains de la Grenouillère. Au premier plan, il y a le vert, il y a le jaune, il y a le rouge, il y a le rose, il y a le mauve. Bon, toutes ces couleurs pures, et à l'arrière-plan, on retrouve cette sorte de lumière indifférenciée. La scène entre ces berges que les rayons obliques enfilaient, roulaient des flots d'encens, où le bleu, le jaune et le vert se brisaient en un éparpillement bariolé. Mais en remontant le fleuve, ce peinturlurage de mer orientale prenait un seul ton d'or de plus en plus éblouissant.
En 1863, les artistes refusés au salon de peinture avaient obtenu de montrer leurs œuvres dans une salle voisine de l'exposition officielle. Claude y expose sa première toile, plein air, qui va faire de lui le chef des contestataires. Mais les jurés du salon, contraints à cette concession par Napoléon III, n'étaient pas disposés à laisser contester leur jugement sans réagir. En accrochant les tableaux les plus médiocres ou les plus scandaleux aux places d'honneur, ils voulaient mettre les rieurs de leur côté. C'est ainsi que la jeune fille en blanc de Whistler fut accueillie par des sarcasmes et des propos égrillards.
Zola, d'abord, encore une fois, c'est un homme complet. Il est d'une certaine manière aussi héritier des encyclopédistes. Hein. Et il dit bien qu'il veut faire une œuvre d'art et de science. Mais je ferai remarquer que le mot « art » est premier. Parmi les écrans de Zola, évidemment, il y a aussi le modèle scientifique. Il y a aussi le modèle chimique, il y a aussi le modèle psychiatrique, il y a le modèle sociologique, etc. Donc, c'est vrai que Zola est fasciné aussi par ce que... Et c'est là aussi que, justement, on voit la parenté et même la synonymie du naturalisme et de l'impressionnisme. Les impressionnistes se revendiquent, eux aussi, de la science, comme Zola. Il faut voir que les impressionnistes, ce ne sont pas non plus seulement les peintres des pommiers en fleurs et des guinguettes. C'est quand même aussi, il y a toute une école sociologique, une étude sociologique, une leçon de sociologie urbaine. Les impressionnistes, je voudrais quand même souligner une chose, c'est que chez les impressionnistes, on trouve effectivement toutes les classes sociales. D'abord, on trouve le paysage urbain. On trouve la ville, alors que jusqu'ici, le paysage, c'était la campagne. On trouve les classes ouvrières. Monet peint des déchargeurs de charbon, Sisley des débardeurs, Sisley encore des forgerons, bien sûr Degas les blanchisseuses, bien sûr, qu'est-ce que je dirais encore, Pissarro une charcutière, qui est en train de vendre au marché. Donc vous voyez, on a tous les thèmes aussi qu'on retrouve chez Zola. Donc quand Zola dit, on les appelle impressionnistes, moi, pour moi c'est des naturalistes, c'est parce que aussi les motifs sont les mêmes. Bon, alors il y a donc le monde ouvrier, il y a les classes ouvrières, il y a le monde du plaisir, il y a le monde de la rue. Manet peint une chanteuse de rue, il peint le vieux musicien, des saltimbanques, il peint des chiffonniers, des ivrognes, des buveurs d'absinthe, bien avant Degas. Hein. Degas, il y a bien sûr l'absinthe de Degas, mais c'est plus tard. Et puis il y a le monde du plaisir vénal. Bon, Degas fait une spécialité des prostituées qui attendent le client à la terrasse du café, des chanteuses de café-concert, etc. Tirades de l'opéra qui sont attendues par leurs vieux derrière le rideau de scène. Enfin bref, on trouve dans la thématique impressionniste toute la thématique du naturalisme. Donc cette idée de la science, c'est pas seulement la science physique, celle d'un chevreuil, la science chimique, donc il a chez Zola aussi, hein, mais aussi cette science, les sciences humaines qui sont en train de naître. Et les leçons de sociologie du roman naturaliste, on les trouve d'une certaine manière à l'œuvre, à l'état pratique, dirais-je, dans les toiles des impressionnistes. Mais évidemment, pour, comme je disais tout à l'heure, on trouve aussi la bête humaine. La bête humaine, l'idée de Darwin, hein, de Degas partageait totalement l'idéologie darwiniste de Zola. Donc, vous voyez, la science, c'est peut-être aussi ça. Évidemment, pour Zola, c'est jamais seulement les sujets qui font une esthétique, c'est bien avant tout la manière de peindre. Alors, c'est ça qui partage aussi ensemble.
À la manière de Degas, Zola enquête dans Nana sur les prostituées qui hantaient les bas quartiers noirs.
Leur visage blanchi, taché du rouge des lèvres et du noir des paupières, prenait dans l'ombre le charme troublant d'un Orient de bazar. Jusqu'à 11 heures, elles restaient gaies, s'arrêtaient à causer devant une table, acceptaient des consommations qu'elles buvaient lentement.
Le peintre avait déjà représenté la mobilité des filles des rues, attablées un moment en terrasse, prêtes à suivre discrètement le client qu'elles ont raccroché, à moins que, délaissée, elle n'enrage, comme la prostituée qui fait claquer l'ongle de son pouce contre ses dents en signe d'échec.
Et les soirs où elle revenait à vide, elles se disputaient entre elles. C'était la rentrée attardée du quartier, les pauvres filles exaspérées d'une nuit de chômage, s'obstinant, discutant encore d'une voix enrouée avec quelque ivrogne perdu qu'elle retenait à l'angle de la rue Bréda ou de la rue Fontaine.
Patricia Carl et Béatrice Desgranges, vous avez parlé des images qu'on pouvait voir dans Zola, vous avez parlé du style, des liens qu'on pouvait faire de la notion de manière de peindre et de manière d'écrire, mais il y a aussi une manière de voir finalement.
Oui, en effet, Zola adopte les perspectives acrobatiques sur le monde des impressionnistes. Il privilégie, comme les impressionnistes souvent, la plongée, la contre-plongée. On a ainsi, par exemple, des kiosques de marchands de journaux vus comme posés à terre, comme de grandes lanternes vénitiennes. Dans Bonheur des Dames, les têtes des clientes sont vues à raccourci. On voit des morceaux d'épaule, de bras. Enfin, bon, il y a pas mal de perspectives aussi qui morcellent un petit peu l'espace. Et à l'inverse, lorsque Gervais voit Coupeau sur le toit, il est démesurément grandi par la contre-plongée. Bon, il reprend aussi les motifs de l'architecture industrielle qui morcelle aussi l'espace. Hein. On pense à la toile de Caillebotte, donc le pont d'Europe, qui inspire une description de l'Assommoir au moment où Gervaise est en proie à la déréliction.
Elle descendit jusqu'au pont du chemin de fer. Les hauts râpés de fortes tôles boulonnées lui masquaient. Elle distinguait seulement sur l'horizon lumineux de Paris l'angle élargi de la gare, une vaste toiture noire de la poussière de charbon.
Gervaise découvre le même spectacle que l'ouvrier en blouse de la toile, accoudé à la balustrade. Son regard entraîné vers la trouée d'une large avenue par un panache de fumée blanche suit la perspective de Caillebotte qui semble échapper au cadre de la toile.
Un train passa, sortant de Paris. Elle ne reçut de ce train qu'un panache blanc, une brusque bouffée qui déborda du parapet et se perdit. Elle se tourna, comme pour suivre la locomotive invisible. De ce côté, elle devinait la campagne, le ciel libre, au fond d'une trouée, avec de hautes maisons à droite et à gauche.
Par ailleurs, Zola interpose, comme dans l'étoile de Degas, des premiers plans insolites. C'est le cas dans l'Assommoir, où Gervaise et Coupeau cherchent Nana. Et on a des premiers plans envahissants, des chapeaux qui forment, si vous voulez, le premier plan, comme dans l'étoile de Degas, on voit les musiciens de l'orchestre, par exemple. Ils se haussaient sur les pieds, écrit Zola, pour voir quelque chose, les chignons et les chapeaux qui sautaient. C'était à gauche un vieux chapeau de velours noir avec deux plumes déguenillées qui se balançaient. Ils n'apercevaient toujours que ce chapeau, dansant un chahut de tous les diables, cabriolant, tourbillonnant, plongeant et jaillissant. Ils le perdaient parmi la débandade enragée des têtes et ils le retrouvaient, balançant au-dessus des autres.
Donc une approche là, alors carrément de transposition de code entre un art et un autre. C'est plus là qu'une inspiration ou même un écran, c'est encore plus que ça.
C'est effectivement la transposition des codes. Je crois que le terme code est là aussi très très bienvenu. Autre élément de cette codification du réel, tout à fait antithétique d'ailleurs du réalisme, les effets de miroir. Les effets de miroir, les impressionnistes ont l'habitude de donner la même densité à la chose reflétée qu'au motif principal. Mais là encore, on va retrouver ça chez Zola. Par exemple, dans Le Ventre de Paris, Florent voit toute une foule de Lisa. Il y en a au plafond, il y en a sur les murs. Et en plus, comme c'est quelqu'un qui lui fait peur, évidemment, elle se démultiplie, cette nana. Ça donne donc au monde un effet de non seulement de fragmentation, mais aussi d'une esthétique complètement surréaliste, on pourrait dire. Encore un élément de cette esthétique, de ce code, qu'on a énormément reproché aux impressionnistes, en particulier à Monet, les lichettes noires. Lorsqu'en 1873, Monet présente ses deux tableaux, qui s'appellent Le boulevard des Capucines, la vue de nuit et la vue de jour, les critiques poussent les hauts cris, qu'est-ce que c'est que cette lichette noire? Alors je ressemble à ça quand je me promène sur le boulevard des Capucines. Bon, eh bien Zola va reprendre justement le fourmillement de la foule, et les traînées de fourmis noires. Bon, alors, les traînées de fourmis noires pour les mouvements de la foule, mais aussi des fulgurances de couleurs.
Toute une activité mondaine se déploie dans l'enceinte d'un champ de course. Et c'est sous le regard circulaire de Nana que nous découvrons le panorama.
D'un regard circulaire, elle embrassait l'horizon. C'était d'abord la piste vide, fermée de ses barres grises. Puis, au centre, elle voyait la pelouse. Tandis que de l'autre côté, quand elle se tournait vers les tribunes, les figures se rapetissaient. Et au-delà encore, autour de l'hippodrome, elle dominait la plaine.
La principale difficulté pour les peintres restait de fixer le mouvement sur la toile. À la vue classique, les peintres impressionnistes ont substitué d'audacieux raccourcis de perspective. En 1875, dans Aux courses, Manet peint ainsi un groupe de cavaliers tandis que la foule disparaît dans un bariolage de petites touches de couleurs vives. C'est avec le regard du peintre que Nana semble suivre la course.
Elle les avait suivis de dos, dans la fuite des croupes, dans la vitesse allongée des jambes qui se perdaient et prenaient des finesses de cheveux. À présent, le peloton arrivait de face, dans un coup de foudre. Toute la foule impétueusement s'était jetée aux barrières. À cette distance, on distinguait seulement une masse compacte et brouillée, entassée sur les gradins, un fond sombre que les taches pâles des figures éclairaient.
Zola et ses peintres s'attachent à représenter les moments qui précèdent la tension de la course, ainsi que les espaces situés en marge du spectacle. À la manière de Degas, Zola coupe les tribunes de Longchamp d'une diagonale d'ombre et de lumière et dissout les formes dans la chaleur d'une foule en délire.
Une agitation remuait les tribunes, sans qu'on vît distinctement autre chose qu'un tremblement de l'air, comme la flamme invisible d'un brasier, au-dessus de ce tas vivant de petites figures détraquées, les bras tordus, avec les noirs des yeux et de la bouche ouverte.
Au-delà des sujets, ce sont bien des manières de voir qui rapprochent Zola des impressionnistes. Degas l'a bien vu et affirmé au Goncourt que la peinture était devenue la source principale d'inspiration des romanciers de son temps.
Lorsque Nana voit les courses à Longchamp, elle voit l'éclair vif des jockeys, hein, et non pas le jockey dont la casaque est rouge, jaune ou verte, non, l'éclair vif des jockeys qui raye l'horizon. D'une, et là encore, on trouve le cinéma, d'une traînée de couleurs. Hein. Donc voilà, Zola a vraiment cette esthétique qui est, encore une fois, surréaliste, non réaliste. Il ose même une tête coupée tout à fait extraordinaire. Quand le comte Muffat voit Nana de dos, le comte Muffat est un voyeur familier des coulisses, hein, et il est toujours là à traquer Nana. Et donc, il voit Nana de dos. Alors évidemment, cette croupe tendue déjà lui fait des choses. Mais alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on voit la tête du souffleur posée par terre, dit Zola, comme coupée. Une tête coupée. Bon, on la retrouve chez Degas, dans Au théâtre. Donc vous voyez, là encore, je crois qu'il faut insister sur l'absence totale de réalisme plat, de réalisme photographique, que Zola d'ailleurs contestait énormément dans ses salons. Lorsqu'il commente Caillebotte, dont on a vu tout à l'heure qu'il adoptait la perspective du Pont de l'Europe. Hein. Il y a, ces deux toiles du Pont de l'Europe sont présentes chez Zola. Et je rappelle d'ailleurs aux Genevois que, eh bien, ils ont la chance d'avoir la toile de Caillebotte à Genève, au musée du Petit Palais. Et je ne saurais que trop les encourager à aller tout de suite la revoir, peut-être avec le beau texte de Zola à l'esprit. Caillebotte est un génie de la perspective. Par contre, Zola lui reproche quand même quelque chose. C'est que il a une peinture un peu sèche, un peu bourgeoise, parce que justement, elle est un peu trop photographique. Et il est vrai que Caillebotte utilisait la photographie pour construire sa toile. Alors, il utilise une photographie qui est déjà une photographie non tout à fait réaliste, puisqu'il utilisait des grands angles, hein, le grand angle qui aplatit les choses. Et d'ailleurs, dans la citation de l'Assommoir, on a l'angle élargi de la gare. C'est-à-dire que Zola sait bien que Caillebotte utilise le grand angle. Et puis peut-être dernière chose, dans cette esthétique, le japonisme. Zola connaît très bien les estampes japonaises. Il les connaît parce que les peintres les collectionnaient depuis très longtemps. Millet est sans doute le premier qui a collectionné des estampes japonaises. Dès 1855, il avait une collection. Monet prétend avoir acheté une estampe japonaise pour la première fois au Havre en 1864, ce qui est peut-être faux. En tout cas, il en a beaucoup ramené de son voyage en Hollande qu'il a fait en 1870, si mes souvenirs sont bons. Et Zola est un amateur. Il passe son temps à aller chiner dans les magasins où on trouve, à la Porte Chinoise entre autres, où on trouve des estampes japonaises. Et on sait qu'il avait beaucoup de bibelots japonais chez lui. Hein, il en avait beaucoup. Son arrière-petite-fille, Brigitte Émile Zola nous l'a confirmé, et on a très tôt dans les romans de Zola ce qu'on peut appeler du japonisme. Il se manifeste par quelque chose que les impressionnistes empruntent aux japonais, qui est l'art de l'abréviation. L'art de l'abréviation, c'est-à-dire représenter d'un trait.
Voilà donc ce qu'apportent les peintres impressionnistes. Une recherche plus exacte des causes et des effets de la lumière, influant aussi bien sur le dessin que sur la couleur. On les a accusés avec raison de s'être inspirés des gravures japonaises, si intéressantes, qui sont aujourd'hui entre toutes les mains. Il faudrait ici étudier ces gravures et montrer ce que cet art si clair et si fin de l'Extrême-Orient nous a appris de choses, à nous occidentaux, dont l'antique civilisation artistique se pique de tout savoir. Il est certain que notre peinture noire, notre peinture d'école au bitume, est restée surprise et s'est remise à l'étude devant ces horizons limpides, belles taches vibrantes des aquarellistes japonais. Il y avait là une série de moyens et une intensité d'effets qui ont frappé nos jeunes artistes et les ont poussés dans cette voie de peinture trempée d'air et de lumière où s'engagent aujourd'hui tous les nouveaux venus de talent. Et je ne parle pas de l'art exquis des Japonais dans le détail, de dessins si vrais et si fins, de toute cette fantaisie naturaliste qui procède de l'observation directe jusque dans ses écarts les plus étranges. J'ajouterai pourtant que, si l'influence du japonisme a été excellente pour nous tirer de la tradition du bitume et nous faire voir les gaietés blondes de la nature, une imitation voulue d'un art qui n'est ni de notre race, ni de notre milieu, finirait par n'être plus qu'une mode insupportable. Le japonisme a du bon, mais il ne faut pas en mettre partout. Autrement, l'art tournerait au bibelot. 1880.
Les gouttes filant comme des traits d'acier, minces et drues dans le soleil, ou bien les hachures grises, la trame épaisse d'une pluie battante, l'immense rideau tiré obliquement du vaste ciel à la terre, ça c'est du Hiroshige, ça on trouve ça dans une page amour, ou alors des hachures roses et bleues qui peinturlurent l'horizon de leur bariolage. Et puis le sens de la série. Dans l'œuvre, il va peindre une série, la série de la cité. Et je crois que là encore, si les auditeurs peuvent feuilleter un catalogue d'estampes japonaises, on en trouve quand même très très facilement dans les éditions contemporaines, eh bien ils retrouveront les 36 vues du Mont Fuji de Kusai. Je vais lire quelques exemples. Je ne lis pas le tout, mais quelques exemples de cette série. Claude est devant la cité, et voilà ce qu'écrit Zola. À toutes les heures, par tous les temps, la cité se leva devant lui. Sous une tombée de neige tarde, il la vit fourrée d'hermine au-dessus d'une couleur de boue. Il la vit un jour de fin brouillard, puis ce furent des pluies battantes qui la cachaient derrière l'immense rideau tiré du ciel à la terre. Des orages, dont les éclairs la montraient fauve, dès qu'il la balayait d'une tempête, aiguisant les angles, la découpant sèchement dans le bleu pâli de l'air. Il voulut la voir dans le soleil à son déclin, gardant aux arêtes des monuments les franges de braise d'un charbon près de s'éteindre. Mais il en revenait toujours à la cité sereine sous le vent léger, dans la transparence de l'air que traversait un vol de petits nuages. Alors ces deux dernières images sont tout à fait belles. Cette frange de braise qui suit les contours de la cité, bon, c'est vraiment un trait typique des Japonais. Même chose, ce vol de petits nuages, on le trouve chez Okusai. Le grand éclair qui zèbre la cité, c'est pareil. Je crois que là encore, qu'on regarde les estampes, qu'on lise Zola, et on verra que Zola n'est absolument pas réaliste.
Une image emblématique, tout le monde, je crois, connaît la grande vague de Kusai, ne serait-ce que parce que quand un publiciste est en main d'inspiration, s'il veut vendre un produit pour nettoyer les toilettes, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la grande vague de Kusai, par exemple. Or, cette grande vague, eh bien, Zola s'en sert dans une page amour pour représenter l'opéra.
L'opéra, il le voit comme un navire dématé, la carène prise entre deux rocs, dit texte, résistante aux assauts de la tempête. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'analyse, là encore, l'analyse de l'estampe d'Okusai. Qu'est-ce que fait Okusai? Il procède par homologie structurale. C'est-à-dire qu'il représente une montagne d'écume, hein, donc la mer se transforme en une montagne. On a effectivement la carène d'un bateau, qui est donc prise entre deux rocs, puisque la mer dessine une montagne d'écume, et derrière, on voit le mont Fuji, qui prend les couleurs de la mer, bleu et blanc de neige. Donc quand on dit effectivement comme ça, l'opéra il vogue dans un océan de toiture, hein, soulevant ses vagues, le mot soulevant ses vagues est là, comme un vaisseau dématé, la carène prise entre deux rocs, résistante aux assauts de la tempête, on a vraiment la citation de l'estampe, mais une citation qui se fait analyse, qui décrit la manière dont Okusai travaille. Et puis, il y a une dernière évocation, puisqu'il en aurait bien d'autres à dire, dernière évocation des estampes japonaises, cette très belle estampe aussi d'Hiroshige qui est bien connue, l'aigle d'Hiroshige qui déploie une de ses ailes dans l'envente. Or, dans une page d'amour, la petite âne se met à la fenêtre. Elle est désespérée parce que sa mère l'a laissée, elle a laissé pourrir vraiment. Et cette petite jeune fille sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de pas très catholique. Elle se met donc à la fenêtre, malgré la pluie tente, et il y a un nuage qui arrive. Et ce nuage, justement, dit Zola, il se détache avec le coup d'aile lourd d'un oiseau géant. Et quelques pages plus tard, il va dire que la petite Jeanne éprouve justement au-dessus d'elle la sensation d'un oiseau géant, les ailes élargies. D'abord, elle ne vit rien, le ciel restait clair, mais une tache sombre entra à l'angle de la toiture, déborda, envahit le ciel. C'était un nouveau grain poussé par un terrible vent d'ouest. Donc là, on voit comment, par le jeu des métaphores, Zola va représenter une simple pluie comme une estampe japonaise.
J'accuse. 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 J'accuse.
On connaît un Zola extrêmement polémiste et pamphlétaire, avec notamment J'accuse, qui est très connu, mais il y a d'autres choses. On revient à Zola journaliste. Mais est-ce que dans la critique d'art, Zola a aussi eu des conflits ou des polémiques sérieuses, ou c'est simple, c'était plutôt de l'ordre de la théorie et de l'analyse? Parce que ce dont on a parlé maintenant, c'était plutôt sur un registre théorique sur l'art. Mais est-ce qu'il a eu aussi des choses, disons, des polémiques?
Oui, alors on peut dire que avant J'accuse, le premier J'accuse de Zola, c'est pour Manet. Pour Manet, 1866. C'est son premier combat. Alors que Manet est le peintre, il faut le dire, le plus détesté du XIXe siècle, le plus vilipendé du XIXe siècle. Et Zola, eh bien justement, alors qu'il ne connaît pas encore Manet, il écrit ce pour Manet qui est un plaidoyer exactement comme Dreyfus, le J'accuse sera un plaidoyer. Et alors on peut dire que tous les écrits sur l'art de Zola sont un immense J'accuse contre cette idéologie bourgeoise qui s'étale sur les six mètres du salon avec les peintres académistes. Il est d'une férocité jouissif pour celui qui le lit aujourd'hui, il est d'une férocité extraordinaire contre les Cabanel, contre les Jules Breton, contre les etc. Et bon, il dit je prédis dans 25 ans ces gens-là ils seront relégués dans les greniers et Manet, la place de Manet est au Louvre. Alors que il fallait protéger parfois l'étoile de Manet contre les exactions de la foule. Comme c'est du Zola, c'est du Manet, hein, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est fantastique de lucidité. ¶¶